Kéra est arrivée d'Algérie à l'âge de 2 ans et vit aujourd'hui à la Faourette, en banlieue toulousaine. Fière du courage de son père qui a participé à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, elle nous parle aussi de son engagement pour que son quartier soit un lieu de vie accueillant pour tous.
Prochaine station, Bagatelle.
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 Donc je m'appelle Abdelouab Kéra, j'ai 4 filles. Mes parents habitent la Faourette depuis longtemps, depuis 1976. Moi j'étais de la Faourette et je suis partie habiter à Bagatelle. J'ai habité 17 ans à Bagatelle et puis je voulais quelque chose de plus grand, donc on m'a proposé la Faourette, donc je suis revenue aux sources. Donc moi, je n'étais pas née quand mon père est arrivé, puisqu'il avait 17 ans, en 52. Il est venu travailler en tant que Français, puisque c'était encore, l'Algérie était encore française. Et il travaillait pour son père, ses parents, qui étaient restés, eux, au pays, en Algérie. Dans la campagne d'Algérie, en plus. Donc des fois, c'est plus dur pour vivre, donc il travaillait. Et il était venu sans adresse, sans rien, quoi. Il est venu comme ça. Il nous avait raconté qu'il pleuvait à verse et qu'il était à côté des mobilhomes, là où habitaient les ouvriers immigrés, surtout arabes, enfin algériens. Il y avait quelques Marocains aussi. Et il disait que, bon, comme lui faisait, il était venu comme ça, on ne l'a pas fait rentrer. Puis à un moment donné, il a dit qu'il s'était mis à côté des mobilhomes pour dormir. Et il y a quelqu'un qui est venu le voir en lui disant « Tu sais lire l'arabe ?» Et il a dit « Oui ». Il a dit « Rentre, comme ça tu nous liras les lettres ». Il a lu les lettres qui ont été envoyées du pays. Et depuis, il a sympathisé avec eux et il est resté dans le mobilhome. Au début, c'était les mobilhomes, c'était les cabanes un peu toutes pourries, là où ils vivaient les immigrés entre eux. Ils cuisinaient entre eux, enfin, c'était des trucs pourris là. Et des fois ils mettaient un toit en zinc là, en zinc il dit lui, un truc en fer, et puis ils vivaient comme ça quoi. Pour aller chercher du travail, donc ils devaient se présenter au chantier, et évidemment des fois c'était plus de 30 ou 50 personnes qui faisaient la queue, des fois ça pouvait durer des heures, et au moment voulu, ou enfin au moment où il arrivait lui, c'était son tour, il s'est aperçu qu'il avait oublié ses papiers. Donc le monsieur lui a dit, attends, il te reste pas grand chose là, puisqu'on va bientôt fermer le bureau, tu reviens pas avant 10 minutes quoi, c'est bon quoi, on te prend pas. Et il a dit, j'ai enlevé mes chaussures, je les ai attachées, je les ai mis comme ça autour du cou. Et j'ai couru jusqu'au mobilhome. Il a dit, j'ai pris ma veste, j'ai même pas eu le temps de la mettre, je l'ai mis comme ça sur mon bras. Et je suis revenue dans l'autre sens, pareil, en courant. Et arrivée devant le bureau, c'était mon tour. Et quand je suis arrivée devant le monsieur qui recrutait, il était essoufflé, n'arrivait même pas à parler. Et il lui a dit, oh là là, mais juste pour travailler, tu vas crever toi. Alors mon père, bien sûr, avait l'accent, tu vas crever. Et il dit, allez, je te prends, si toi t'as vraiment envie de travailler. Et voilà, et depuis, ben, l'entreprise qu'il a prise, il est resté jusqu'à sa retraite. Donc il a été manœuvre et après maçon. C'est quelqu'un qui lui a dit, parce qu'il est resté manœuvre, il aurait pu rester, je crois, manœuvre toute sa vie, le pauvre. C'est quelqu'un qui lui a dit, ça fait plus de 15 ans, tu peux demander à être maçon. Et c'est là où on l'a, comment dire, on a élevé son grade, donc il touchait un peu plus. comme nous on dit, qu'il a travaillé pour la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a travaillé à Verdun, en Meurthe-et-Moselle, Strasbourg, Metz, je crois, Paris. Voilà, mais surtout Verdun, fait tout ce coin-là où il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est arrivé en France donc en 52, il a travaillé. Après, au bout de 2 ans, on l'a attrapé, je crois. Il nous a dit que, je ne sais pas si c'est la police, en fait, je ne sais pas trop. Comme il n'avait pas fait l'armée, ils lui ont dit de repartir en Algérie pour faire l'armée française, mais en Algérie. Donc, je crois qu'il a fait 2 ans. Et en 55, il s'est marié, donc avec ma mère, qu'il a laissé là-bas. Et il est revenu pour travailler, mais dans sa tête, je pense que c'était « je travaille, je reviens au pays ». Et donc, chaque année, comme ça. Et puis, un jour, ma mère, elle lui a dit « attends, moi, je galère, puisqu'on était déjà 5, hein, donc elle avait déjà eu 5 gosses. Moi, je parle pas du jour au lendemain, puisqu'on est né à 2 ans d'intervalle chacun. Et donc, bon, elle a dit, je ne peux pas rester toute seule avec les enfants, puisque là-bas, là, c'était quand même... Elle travaillait les champs, l'agriculture, elle faisait... Nous élever à nous, c'était quand même dur. Donc, elle a demandé à le rejoindre. Donc, je crois qu'il a fait un regroupement familial et il a pris un appartement à l'OPAC. Enfin, je ne sais pas si c'était l'OPAC à l'époque, mais en tout cas, c'était les HLM du côté de Purpan là-bas. Donc, il a pris un D4, je crois que c'était, et il nous a rapatriés avec ma mère. Et ma mère, après, elle nous a amenés à l'école, puisque lui, bon, comme il travaillait, il n'avait pas de voiture, il avait une petite mobylette. Et elle nous a amenés à l'école et c'était quand même 4 fois aller-retour Purpan-Saint-Martin-du-Touche. Et elle, évidemment, elle faisait le double, puisqu'elle nous amenait, revenait, repartait nous chercher. Enfin, bon. Et moi, je sais qu'on avait les chauffeurs de bus, ils étaient super sympas en attendant. C'est que des fois, on venait à pied et on avait des chauffeurs qui s'arrêtaient et qui nous disaient « allez, montez ». Et on prenait les tickets de par terre. Ils disaient « on ne sait jamais si il y a le contrôle ». Ils disaient « prenez les tickets » et ils nous amenaient jusqu'à devant la maison. C'était 15 routes de Bayonne. On vivait normalement, quoi. À la maison, on mangeait comme la tradition, on faisait le ramadan. Mais après, moi, je m'habillais à la française, ma mère aussi à l'époque. Et puis après, on sortait, tout ça. Bon, après... par exemple, j'avais pas le droit de sortir le soir. Même mon frère, d'ailleurs, mon frère, à 18 ans, je me rappelle, il sortait pas comme il voulait. Il était très sévère, mon père, quand même, parce qu'il voulait pas voir la police, quoi. Il disait, moi, je veux pas de problème, vous restez là. Et mon frère, pareil, il disait, 18 ans ou pas 18 ans. Pour mon père, il y avait pas de majorité, c'était lui le chef. Et voilà, quoi. Bon, d'un côté, il avait raison, parce que le fait qu'on sorte, c'est souvent comme ça qu'on ramène des... Et qu'il y a des histoires. Pas tout le temps, mais bon. Ça arrive, si on est à la maison, il ne risque pas d'y avoir une histoire. Mais si on commence à sortir le soir et tout, pour lui, il pouvait se dire, surtout une fille, pouvait lui arriver n'importe quoi. Donc voilà, même pour travailler de nuit, des fois, il me disait non. Ou alors il m'amenait, il venait me chercher. Jusqu'à, je me rappelle, 25 ans, il me disait, je t'amène. J'avais des collègues qui me disaient, c'est ton père? Je lui disais, oui. Bon, lui, il avait plus confiance comme ça, quoi. Ce qui était dur, c'est que mon père, ne sachant pas lire ni écrire... Enfin, ma mère sait lire, mais bon, elle pouvait pas nous aider, par exemple, pour des devoirs, même des petits trucs, peut-être des additions, des trucs comme ça. Même la table de multiplication, mais après, des gros trucs, des fractions, des trucs comme ça, je pense pas. Et je me rappelle, quand on habitait le quartier Purpan, il y avait un couple d'étudiants qui habitaient là-bas. Ils étaient de Brive. Et un jour, ils nous ont vus dehors, ils nous ont dit « ça vous intéresserait pas qu'on vienne de faire les devoirs avec vous ?» Donc nous, on avait accepté. Il y avait des familles qui n'avaient pas voulu. Et donc nous, ils sont venus. Et moi, je me rappelle, il y en avait une qui s'appelait Michel, s'occupait de moi. Et Martine, elle s'occupait de mon frère. Et après, des fois, quand ils ne pouvaient pas venir, ils envoyaient des copains à eux ou des copines. Et c'était super, ça, parce qu'ils nous aidaient. Et moi, je me rappellerai toujours de mes 8 ans. Ils m'ont fêté mon anniversaire. Donc ils ont fait un gâteau, ils ont mis des bougies. Puis dans le bloc, on entendait du bruit. Et puis mon père, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Parce que lui, les actualités, il fallait qu'il regarde, il fallait pas qu'il y ait de bruit. Puis ma mère, elle dit, je sais pas. Puis elle ouvre la porte. Ils étaient avec une guitare. Et à l'époque, c'était la chanson de À la pêche au moule. Elle chantait à la pêche au moule en rentrant. Et puis moi, j'ai pleuré. Et puis, ils m'avaient fait des petites poupées avec du crépon, des perles. Un truc franchement magnifique. Et ça, j'ai pas oublié. Et depuis, on les a plus revus parce qu'après, on a grandi. Chacun a pris sa voix. Et c'était des gens super. D'ailleurs, j'aimerais bien les retrouver parce que maintenant, ils doivent être plus âgés que moi. J'aimerais bien les revoir et peut-être leur présenter mes filles. Pourquoi pas? Je leur parle de mon père, mais surtout de moi. Par exemple, quand elles veulent quelque chose et que je leur donne pas ou que je peux pas leur donner. Alors, elles me disent, ouais, toi, enfin, il y a ça, ça. Alors, moi, je leur dis, ouais, mais mon père, moi, il a trimé. Et moi, j'ai peut-être pas trimé autant que mon père, mais j'ai aussi trimé. J'ai eu des problèmes d'argent, j'étais obligée de galérer parce que mon père, il galérait, donc il allait pas trop me donner d'argent. Nous, on connaissait pas l'argent de poche. Donc, à 18 ans, on a commencé à travailler. J'ai arrêté l'école pour aller travailler. Et des fois, ça, je le dis à ma fille, j'ai dit, alors, tant que t'es à l'école, profite-en et tant qu'on peut t'aider, parce que nous, on n'a pas eu cette occasion, justement. J'aurais aimé faire des études, parce que je pense pas être bête. Et ce qui est dommage, voilà, c'est ça, c'est que j'ai arrêté mes études jeunes. Et des fois, je leur dis à mes filles, continuez vos études et tant qu'on peut vous aider, continuez dans cette voie. La plus grande a 18 ans. Elle est au lycée des Arènes, elle veut faire avocate. Elle en a 15, elle veut faire ingénieur. L'autre, elle en a 11 et la petite, elle en a 5. Ma mère a été très malade. Elle allait à l'hôpital Purpan, elle est allée souvent. Et puis, bon, comme elle voyait que ça allait pas, elle avait senti que ça allait pas du tout et qu'elle partait, quoi. Alors, elle a demandé à mon père de la ramener en Algérie, vivante, pour pas l'embêter. Et mon père, c'est ce qu'il a fait. Il l'a ramenée et puis, dans même pas 15 jours, je crois, elle est décédée. Et puis après, il a ramené une autre femme du bled et pour nous élever. Mon père, du fait que ma mère est décédée, il ne nous a plus jamais ramené chez la famille de ma mère. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années, il y a quoi, 4 ans je crois, j'ai fait la connaissance de mes tantes. Ça a été un moment dur parce que je ne m'y attendais pas, elles non plus. Et ça faisait longtemps que je les cherchais. Et comme elles habitent un coin perdu, moi je ne se connaissais pas, je n'avais pas les noms. Puis un jour, il se trouve que j'ai connu mon oncle. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur, j'attendais que ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit quand je viens cet été, je viens te voir. Donc je l'ai rencontré. Bon, l'oncle, c'est pas... ça a été fort, mais pas autant que mes tantes. Parce que mes tantes, c'est comme ma mère, quoi. Ce sont des femmes, c'est plus affectueux. Et c'est vrai que là, ça a été dur. Parce que mon oncle m'a invité au mariage de son fils. Donc nous, quand on est partis à Mostar au mariage, on est arrivés en même temps que le cortège. Donc les gens, ils croyaient que je faisais partie du mariage, mais du côté de la fille. Donc on ne me connaissait pas. Puis en fait, je vois une femme qui faisait que me regarder, qui disait, c'est pas possible, elle nous ressemble, cette femme. Mais c'est qui? Elle dit, je sais pas. Alors je me suis levée, comme je comprenais l'arabe, je lui dis, je cherche le propriétaire de la maison, c'est mon oncle. Elle me dit, mais si c'est ton oncle, moi c'est mon père. Mais je dis, oui, mais t'es la fille de mon oncle. Elle me dit, toi t'es qui? Je lui dis, si je te le dis, tu vas être étonnée. Elle me dit, mais dis-le. Je lui dis, je suis la fille de ta tante, mais celle qui est décédée. Alors là, c'était... Puis après, elle est allée voir deux femmes âgées en leur disant, je vous présente la fille de votre sœur. Alors ça a été un moment fort. Moi j'ai pleuré, tout le monde s'est mis à pleurer, on s'est enlacé. C'est quand même 42 ans d'oubli. C'est vrai qu'à l'époque, même le coin où je suis née, tout ça... Je ne me rappelle plus du tout, non. Puis bon, comme j'ai plus ma mère aussi, je ne veux pas... On aurait peut-être discuté avec ma mère de tout ça, de ce qui s'est passé là-bas, ce qu'elle nous faisait, ce que je faisais. Mais comme elle n'est plus là... Mais c'est vrai, ce qui m'attriste, quoi, c'est que mon père nous racontait souvent, quand elle était en train de mourir, quoi, puisqu'elle était à l'hôpital, elle avait une grave maladie, lui nous racontait, il devait travailler. Donc les journées avant, c'était 6h, 7h le soir. Alors nous, petites, petits plutôt, puisque mes frères aussi, mais nous, les deux dernières, les deux filles, on était très petites. On nous faisait garder par une femme qui habitait le quartier. Et je me rappelle, il disait qu'il devait lui donner 10 francs à chaque fois qu'elle nous gardait. Puis un jour, il a eu le pauvre, il lui restait que 5 francs. Et il n'a pas voulu nous garder. Donc il nous a mis une devant, une derrière sur la mobilette. Et en pleurant, il est parti au chantier. Et il lui dit, je suis embêtée parce que j'ai personne pour garder mes filles. Et le chef de chantier, il était sympa. Il a dit, écoute, tu pars chez toi et ta journée est payée. Et ça, il a dit qu'il n'oubliera jamais, quoi. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de faveurs parce que c'était quand même un bosseur qui se plaignait de rien, qui travaillait, même en maladie. Enfin, il ne se mettait pas en maladie, travaillait tout le temps. Enfin, c'était vraiment le bosseur. Il voulait faire vivre sa famille, donc il était obligé de travailler. Et puis bon, surtout là, quand ma mère agonisait, c'était dur. Puis quand tu nous racontes, des fois, il le redit, mais en pleurant. Ça nous touche. C'est qu'il a encore dans le cœur, quoi. Il y a eu beaucoup d'épisodes où il nous raconte comme ça, qu'est-ce qu'il pleure. Je pense qu'il a beaucoup souffert, mais là, c'est au moment où il raconte qu'il se vide, quoi. Je pense qu'à cette époque-là, il encaissait. Puis je pense que maintenant, il arrive à un âge où il se vide, donc là, il a le temps de pleurer, on va dire. Qu'à l'époque, peut-être qu'il n'avait pas le temps. Par rapport à nous, par rapport à l'argent qu'il voulait rentrer, parce qu'il fallait quand même bosser pour payer le loyer, pour nous nourrir, enfin tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on discute plus maintenant qu'il est à la retraite, parce qu'à l'époque, évidemment, comme il travaillait, il avait les journées difficiles et longues et qu'il faisait, je pense qu'il n'avait pas trop le temps. Parce que quand il arrivait, je crois que sa seule pensée, c'est je me douche et je vais dormir, quoi. Il était tellement fatigué. Bon, c'était dur, hein.
Chibeni, Chibenia. De l'autre côté de la mer, ils croyaient que c'était le paradis. Ils avaient entendu parler de liberté et de démocratie. Ils comptaient amasser le pactole pour revenir au pays du pétrole. Leur seul bagage était leur croyance. Ils sont donc partis pour la France. Avec le mythe du retour ancré dans leur cœur, avec beaucoup de nostalgie et de rancœur, ils quittent leur pays d'origine pour une terre où ils vont implanter leurs racines. Ils ont travaillé comme des forcenés. Impossible de penser à retourner dans ce pays tellement aimé, surtout depuis que les enfants sont nés. Ils vont habiter dans les quartiers défavorisés, où ils vont retrouver leur communauté, mariage traditionnel, coutumes et solidarité. Ils se sentent un peu moins dépaysés. De vieux immigrés, anciens ouvriers, vivent encore dans des foyers. Grâce à leur dignité, ils se fichent des préjugés, maintenant qu'ils sont âgés. Ils quitteront ce pays d'accueil, la plupart dans un cercueil. Chibeni, Chibeniya, ton cœur et ton esprit sont là-bas. Chibeniya, Chibeni, ton corps et ta vie sont ici.
Il n'a jamais dit, mais je ne sais pas, on a l'impression, parce que moi je l'entendais des fois, même avec d'autres vieux de son âge, qui disaient, surtout quand les enfants ne sont pas sérieux, quoi. S'il y a un ou deux qui est voyou, ben, le père il dit, ah, si j'avais su, tu vois, je serais resté en France, en Algérie. Donc je pense que le regret, c'est par rapport à ça. Puis bon, le fait aussi que lui, quand il se dit aussi que j'ai trimé comme un fou, et à la fin, j'ai rien, ni ici, ni là-bas. Et c'est réel, parce qu'il habite les HLM, il a une voiture toute simple, et au pays, il n'a rien, il n'a pas d'argent de côté. Mais lui a toujours pensé à payer son loyer, manger, à nous habiller, à nous nous faire vivre la vie simple. Mais la vie de tous les jours, manger, dormir. Mon père, il y va rarement parce que le pauvre, il n'a pas acheté de maison. Il va chez la famille. Après, bon, la famille, c'est pas évident. Ce qu'on dit, lui, il a été en France, il a travaillé. Et comment ça se fait qu'il n'a pas de maison? Alors, des fois, bon, pour pas avoir de reproches ou qu'on lui fasse des remarques, il dit, je préfère rester chez moi ici. Et souvent, ils disent, on attend la fin. Donc, ça, c'est dur, mais. C'est la vie que, même des fois, j'ai l'impression qu'il regrette un peu, parce que maintenant, on a l'impression qu'il ne vit pas ici, il ne vit pas là-bas. Ou il vit ici plutôt, mais sans. Il n'y a plus rien à côté, quoi. C'est je vis, j'attends la mort. Quand il va là-bas, il dit que chez lui, c'est ici. Parce que bon, c'est plus la même mentalité. Lui, il a pris cette mentalité d'ici, le mélange des deux cultures. Mais quand il va là-bas, il y a des trucs qui ne lui plaisent pas, et bien il dit, oh là, je suis pressé de rentrer chez moi. Et quand il est ici, il y a quelque chose qui lui manque. Donc il est obligé d'aller là-bas. Alors on ne sait pas trop, même nous, les enfants, des fois, on dit, oh, moi, j'en ai marre d'ici, j'ai envie de me reposer, je vais en Algérie. Et quand on va en Algérie, au bout de 15 jours, on dit oh, j'en ai marre, j'ai envie de repartir en France. On ne sait plus trop où rester, quoi. Et je pense que les deux pays marchent ensemble. On ne peut plus se passer ni de l'Algérie ni de la France. Enfin, moi, je dis ça. Après, mon père, je ne sais pas s'il pense la même chose. Mais je pense, parce que là, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas parti. Il est parti dernièrement, il est resté 3 semaines. Je pense qu'il y avait quelque chose quand même qui l'a appelé. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque à chaque fois. Ne serait-ce que d'aller visiter les tombeaux, nous on dit l'Oueli. De la famille. C'est le marabout de la famille, des ancêtres, quoi. Donc ça, s'il va là-bas, il faut d'abord ça. Il faut qu'il aille là. Donc après, c'est parce que ça, il ne le trouvera pas ici. Ces petits trucs comme ça. Ça fait partie de la culture. À son âge, c'est vrai que les vieux, un peu plus vieux que lui, ou ceux qui sont de son âge, la plupart, ils sont morts. Donc bon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, quoi. Puis je pense qu'il se dit, il ne me reste pas grand-chose, là, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc il vaut mieux que j'aille voir la famille tant que je suis vivant.
Lance de la violence. Plusieurs quartiers sont concernés par la délinquance. Nous en avons tous conscience. Bagatelle est sur la balance, alors stop à la violence. Nos vieux vivaient dans la tolérance, en croyant beaucoup à la providence. Ils étaient laissés dans l'ignorance et même parfois dans la déchéance. Leur défaut était la peur et le silence. Nos jeunes sont plutôt dans l'insouciance et peut-être même dans la désobéissance. Ces derniers ne croient pas à la chance. Ils se plaignent d'une certaine souffrance. Tout va s'arranger, je pense. Il faudra énormément de patience, de l'énergie, de la persévérance, de l'écoute nécessaire pour gagner leur confiance. En somme, ne pas les laisser dans la négligence. Mais nous l'aimons tous, cette France qui a bercé notre enfance.
Je fais partie aussi d'une association dans le quartier de Bagatelle, Stop à la violence. Mais c'est un peu arrêter les violences qui se passaient à l'époque, quand on brûlait les voitures, tout ça, pour discuter un peu avec les jeunes. Et après, on a dit qu'il manquait les festivités dans le quartier, et que des fois, le fait d'égayer un peu le quartier, ça calmait les esprits. Donc voilà. Et après, on a cherché aussi des talents des quartiers, puisque dans le quartier, il n'y a pas que des violences. Il y a des choses bien qui s'y passent. Et on devrait parler plus de ça que des violences, parce que les violences, c'est vrai que c'est une fois de temps en temps, et encore maintenant, je trouve que depuis plus de 2 ans, j'en entends pas tellement parler. Mais moi, j'ai l'impression qu'on ne nous considérait pas, puisque moi, j'ai subi quand même le racisme, je l'ai subi dehors, je l'ai subi au travail, je l'ai subi à l'école. Je l'ai subi d'ailleurs à l'école très jeune, hein, puisque moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, je devais avoir 8 ans, parce que CE1, je crois que c'était. On avait une instite qui voulait pas qu'on passe à côté des rideaux. Et on disait, ouais, pourquoi on n'a pas le droit de passer à côté des rideaux? Donc tout le monde pouvait passer sauf nous les maghrébins, et elle disait ouais, passez pas à côté des rideaux, c'est pas votre mère qui va les laver. Et moi, évidemment, comme j'avais perdu ma mère, c'était pas fait ça, je pleurais, quoi. Et je lui disais je passerai quand même, parce que j'avais quand même du caractère. Et donc elle m'a amené au tableau, bon tu viens ici, et alors là elle me tapait avec une règle sur les doigts, ou alors c'est... mais c'était vraiment la dure, je trouve, à l'époque. Et on avait aussi un copain de quartier, lui il était de mère française mais de père tunisien, je crois. Son père était décédé, donc c'est sa mère qui l'élevait, et comme la mère travaillait, il venait avec nous à l'école, donc on se donnait la main et on partait. Et je me rappelle, elle regardait tout le temps ses oreilles, elle lui dit la prochaine fois tu m'amèneras un gant et tu te laveras les oreilles ici. Elle le traitait comme si c'était un arabe, quoi. C'est-à-dire nous classer, nous, le groupe arabe, là, on est sale, on est ci, on est ça, alors que bon, on n'était pas. C'est pas vrai, quoi, on n'est pas sale. Et bon, ça franchement, ça a été dur. Des fois, j'ai l'impression que quand je vois des trucs, parce que je suis déléguée aussi sur les écoles, des fois, j'essaie de me battre pour tous ces trucs, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai subi jeune, j'essaie de me rattraper aujourd'hui avec le dialogue. D'être là pour des. Comme je faisais à une époque aussi, les conseils de discipline au collège. je fais partie aussi du conseil d'administration du CLAE, donc je veux dire, j'essaie d'être un peu partout, de visionner ça un peu de près. Bon, après, ça ne veut pas dire que je vais faire quelque chose, mais au moins de donner mon opinion, de défendre des trucs qui me tiennent à cœur. Moi, je trouve que ça n'a pas tellement changé, mais comme maintenant, on sait bien parler le français, donc on arrive à se défendre, et puis il y a des lois quand même de notre côté, puisque s'il y a du racisme, on a le droit de porter plainte. Bon, après, je ne sais pas comment ça se passe, hein. S'il faut des témoins, tout ça, bon, je ne sais pas si on arrive à quelque chose au bout, mais en attendant, on sait qu'on a des lois de notre côté, on a des droits, et surtout, on sait s'exprimer, donc après, on peut se défendre moins avec la parole. Qu'à l'époque, peut-être que, bon, mes parents, je pense pas qu'ils savaient vraiment bien parler, donc après, qu'est-ce qu'ils allaient répondre? Puis j'avais l'impression aussi que mon père, il disait, mais c'est normal, hein, on est arabe. On avait l'impression qu'ils se mettaient le tort sur lui malgré tout. C'est leur pays, quoi. Il disait, c'est leur pays, c'est normal. Et je disais, non. Comme moi, j'ai toujours dit à mon père, avec le temps, les gens, les purs français de souche, la plupart, ils sont morts. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Maintenant, il y a beaucoup de mixité, des mariages mixtes, il y en a beaucoup. Et il y a des gens, moi, je connais des gens, on va dire, français de souche, qui vivent dans le quartier et qui partiraient pour rien au monde. Ils se sentent bien parce qu'ils se sentent en famille. Et je sais que c'est un quartier, malgré tout, où les gens sont solidaires. Moi, je sais que j'ai un panier. Si on voit qu'il est lourd, on me dit, tiens, tu veux pas qu'on te le monte? J'ai toujours trouvé des jeunes prêts à aider, quoi. Mais après, c'est vrai qu'eux, à force de subir aussi, le fait qu'ils puissent pas aller en boîte, le fait que, parce que c'est un jeune typé, de suite, c'est un voyou. Alors ça, des fois, c'est énervant, quoi. Toute ta vie, alors tu te dis, ton père, toi, tes enfants, bon, ça va s'arrêter quand? Et on parle d'intégration. Qu'est-ce que c'est l'intégration? Est-ce que c'est parler français? Est-ce que c'est s'habiller français? Est-ce que c'est vivre à la française? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on dit, ouais, mais il faut qu'il soit intégré. Intégré par rapport à quoi? Ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'intégration? Moi, je sais que je parle français, je parle arabe aussi, hein, quand je suis avec des femmes âgées, ou même des jeunes filles, des fois, des filles de mon âge, des mamans. On discute, des fois, il y a des mots qui passent mieux en arabe. On a de l'humour, ben, l'humour, des fois, il y a des blagues, par exemple, moi, j'adore raconter des blagues, mais les blagues, moi, je préfère les raconter dans ma langue, parce qu'elles ont plus de signification. Après, je connais aussi des blagues françaises, ça, c'est pas... Mais bon, après, j'arrive à m'adapter. Puis je connais des gens de toutes les couleurs et c'est vrai que je m'adapte assez facilement avec tout le monde. J'ai, donné ce petit truc à mes filles et c'est vrai que mes filles, c'est pareil. Elles ont des copains, des copines de toutes les couleurs, de toutes races, religions. Je dis, ne regardez pas ça. Soyez ouvertes. Mais après, c'est les gens qui vous regardent, qui sont peut-être pas comme moi, quoi, qui essaient pas de rentrer dedans, quoi. Et ça, ça fait mal. Parce qu'on se dit, jusqu'à quand on va nous demander d'être intégrés, de prouver. Nous, on a l'impression qu'on doit prouver toujours doublement, même des fois plus que doublement. Et ça, c'est énervant, quoi. Parce que moi, je veux passer, si quelqu'un me gêne, je vais dire pardon, je vais dire bonjour, je vais tenir la porte. Si je vois une personne âgée qui a un sac qui est lourd, je vais lui demander si elle veut que je l'aide. Alors que moi, j'ai des problèmes de santé. Mais quand je peux aider, je dis tant pis, j'aide. Et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Et puis, j'ai l'impression qu'on nous classe, quoi. Parce qu'on est typé. Oh, celle-là, c'est une arabe. Souvent, moi, je le vois quand on s'assoit dans un bus, la personne vite, elle serre son sac. Alors que bon, des fois, c'est énervant, hein. Moi, je sais que des fois, ou alors on vous regarde de travers. Alors, il suffit qu'il s'est passé un truc à la télé, aux actualités, concernant, par exemple, un islamiste, ou je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, là. Mais de suite, on va classer tout le monde dedans. Celle qui a le voile, celle qui l'a pas, celle qui a le voile intégral, enfin, tout le monde. Et ça, je trouve pas ça normal. Après, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on a la religion qu'on a, et puis c'est tout. Tant que ça gêne pas les autres. On a fait plus des actions festives, là, ces temps-ci. Parce qu'il y a moins de dégâts, on va dire. Il y a moins de voitures qui brûlent, de moins de problèmes. Parce que du coup, les jeunes, je pense qu'ils ont vu que nous aussi, on était là pour justement arrêter tout ça. On s'interposait quand même des fois entre CRS et jeunes. Et donc les jeunes, après, ils étaient contents, quoi. Ils se disaient, les mamans sont de notre côté. Parce que bon, c'est nos enfants, malgré tout, même s'ils ne nous appartiennent pas. Moi, je les considère comme mes enfants. Alors des fois, quand je les vois se faire maltraiter, tout ça, ça me fait mal, quoi. Alors je dis, si on peut faire quelque chose, pourquoi pas? Ne serait-ce que discuter. Ben, on a eu l'occasion d'aller voir le préfet. Donc après, on remonte les problèmes qu'on voit. Les contrôles abusifs, par exemple. Les contrôles aux faciès, tout ça. Tu contrôles une fois, mais pas 10 fois. Et surtout dans le même endroit. Enfin bon, des trucs comme ça. À une époque, c'est vrai que quand il y avait des voitures qui brûlaient, que les CRS arrivaient dans le quartier, qui tournaient dans le quartier, des fois, ça, eux, ils le sentaient comme une provocation, parce que quand il se passe rien, pourquoi les CRS se passent? Donc après, chacun le voit à sa façon, mais c'est vrai qu'en principe, la police, elle doit être là quand il y a des problèmes. Je sais que quand il y a eu, par exemple, le match Algérie-Égypte, je crois, on a mis un écran dehors, là, sur la pelouse, et les CRS sont carrément passés sur la pelouse. Donc franchement, je ne voyais pas pourquoi ils étaient là. C'était un moment festif et les jeunes, ils n'ont pas fait de dégâts. Hein. Au contraire, ils ont regardé le match tranquille jusqu'à la fin du match. Quand ça s'est terminé, ils ont fait la fête, mais sans dégâts. Enfin, nous, en tout cas, dans le quartier, il n'y a pas eu de dégâts. Ils ont été au contraire super sympas avec nous. On était quand même plusieurs mamans avec eux à regarder le match dehors. Et ça s'est très bien passé. Mais ils n'ont rien à faire. Moi, ils me font rire. Ces jeunes, ils ne peuvent pas aller en boîte. Des fois, ils n'ont pas les moyens aussi d'aller se payer, une voiture pour aller en boîte. Il faut d'abord une voiture, mettre l'essence, payer la boîte. Il faut être bien sapé. Mais des fois, ce n'est même pas le fait qu'il soit bien sapé qui passe. C'est le faciès, c'est la tête. C'est un maghrébin, donc il ne rentre pas. alors que lui, il est français. Moi, ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, c'est vrai. Des fois, on les entend, ils mettent de la musique, ils se mettent à côté de la voiture, ils s'amusent. Mais c'est normal, où ils vont aller? Nous, on avait demandé justement qu'il y ait une salle, un truc où ils peuvent se poser pour boire un café, discuter entre eux, parce que des fois, il pleut. Ils vont pas aller les uns chez les autres, sinon ça ferait combien de jeunes chez la personne? Donc, ils restent dehors. Alors souvent, c'est soit dans les voitures, soit en bas des blocs. Après, on leur reproche qu'ils sont en bas des blocs. C'est normal, ils ont pas d'endroit où se poser. Ça, on s'était battu aussi pour qu'ils aient quelque chose. À Bagatelle, ils ont monté le bar associatif. Mais à la Faourette, pour l'instant, il n'y en a pas. On aurait aimé qu'il y en ait un aussi à la Faourette. Ça aurait été bien. Moi, je dis, il faut un lieu parce que les jeunes, ils savent pas où aller. Ils sont en bas des immeubles, dans leur voiture, s'ils ont une voiture, qu'on leur trouve une solution, qu'on leur donne un lieu où se poser. Les éducateurs et tout ça, il y en a. Hein. Je pense qu'il y en a qui seraient d'accord pour tenir le lieu. Parce qu'après, il faut un responsable, évidemment. Ou même le responsabiliser à eux. Je pense que ça marcherait. Après, bon, je pense qu'il fallait les écouter. Il n'y avait pas de dialogue, que ce soit avec les parents, je pense, et aussi avec les institutions. Et peut-être aussi la police. Que là, il y a plus de discussions, parce qu'on a un monsieur, là, qui est de la police, délégué de la police, qui, lui, commence à venir avec nous, à faire des trucs. Enfin, il a dit qu'on va être en partenariat, quoi, pour faire des choses entre nous. Et là, dernièrement, il parlait de faire du quad. Et donc, on l'a fait, mais nous, bon, on est parti avec des petits-enfants, pas de grands, il n'y avait pas d'adolescents. Mais il a dit que, bon, là, c'était une première. Et comme ça avait bien marché, que ça avait beaucoup plu, on va le refaire. Et là, on le fera avec des adolescents. Puis on a rigolé parce qu'on n'arrêtait pas de dire n'importe quoi. Et puis lui, il rigolait avec nous. Et là, c'était vraiment un moment convivial. Donc là, il n'y avait plus d'étiquette, quoi. C'était un être humain, nous aussi, voilà. On a passé une très bonne journée. Mais ça aussi, c'est pour marquer le coup, dire, voilà, la police, elle n'est pas là que pour frapper, voilà. Eux, les îlotiers, c'était pas ça. Donc, ils ont mis des CRS. Alors, on voit des rondes de CRS. Mais pour qu'il y ait une amitié entre les deux, il ne faut pas que l'autre soit habillé comme s'il venait faire la guerre, quoi. Quand on est ami avec quelqu'un, on ne met pas un casque, on peut discuter. On est tous êtres humains. Après, chacun a son métier. On est de la même façon, on meurt de la même façon. Ils n'ont rien de plus que nous et nous, on n'a rien de plus qu'eux. Après, le dialogue. On s'est parlé, on s'est écouté aussi. Donc, une discussion gentille entre policiers, jeunes, parents, habitants du quartier, tout ça. Moi, je trouve que ce serait, même en faire de temps en temps, ce serait super. Hein. Parce que justement, on verrait une autre image de la police, une autre image des jeunes. Mais si on ne fait pas, c'est normal qu'on ne se connaît pas. Si chacun reste dans son coin, là, en disant « Ah, moi, je suis policier. Ah, moi, je suis habitant. Ah, moi, je les aime pas, moi aussi. » Il va falloir un jour ou l'autre qu'on se donne la main pour se battre, parce qu'on se bat pour la même chose. Hein. Nous aussi, on n'aimerait pas qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent comme ça, quoi, de la violence. On a bien que ça s'arrête dans le quartier. Bon, là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a rien eu. Hein. Moi, franchement, je suis contente, quoi. Hein. Avant, il se passait on voyait des voitures brûler, mais après c'était pas vraiment une violence, on tapait pas sur les gens. Alors, les jeunes peut-être qu'ils s'exprimaient comme ça pour dire oh on est là au fait. Puisque les CRS venaient, ils se prenaient un peu la tête avec eux. Mais c'est vrai que là ça va faire plus de 2 ans, moi j'ai pas entendu parler de problèmes entre CRS et jeunes, hein, que ça soit ici ou à Bagatelle. Ça prouve que quand même nos actions ont marché et que ça s'est un petit peu effacé.
Quartier déstructuré. Chaque jour, nos enfants se couchent épuisés de ces journées de brutalité et de peur. Ici comme ailleurs, les éclats de rire des enfants seraient notre plus grand bonheur. Mais dans ce quartier déstructuré, c'est le son des voitures et des bombes lacrymo qui résonnent. Moi, maman, m'efforce de prendre un air habitué alors que mon cœur grogne et frissonne. Chaque matin, nous partons à l'école. Leurs yeux s'ouvrent sur un triste décor. L'automne n'arrange rien. Les feuilles mortes jonchent le sol, mais je ne perds pas le nord. L'angoisse et l'amertume s'en sont allées. Nos enfants vont retrouver animateurs du clahé et instituteurs. L'ambiance et la diversité du quartier ne leur ont jamais fait peur. Ce sont des gens attentionnés qui n'ont pas de mépris, mais beaucoup d'amitié. Leurs portes ne nous ont jamais été fermées au nez. Ils sont pour la continuité. Le portrait que vous venez d'écouter fait partie du projet Mémoire d'ouvriers immigrés en Midi-Pyrénées. Le collectif Alter Images travaille depuis 2007 à la publication d'un livre et d'un CD prévu pour octobre 2010.